Musicoscope. Focus sur la musique contemporaine, les premiers et troisièmes lundis du mois, sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel opus de Musicoscope, votre émission dédiée à la découverte de la musique contemporaine. Je suis Camille, votre hôte pour ce moment musical, et aujourd'hui, nous allons parler d'exploration sonore avec l'intégration d'instruments encore jamais entendus dans la composition contemporaine. L'émission d'aujourd'hui sera donc consacrée aux nouveaux instruments de la musique contemporaine, et celle initialement prévue sur la musique en plein air sera diffusée dans 2 semaines. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont bien l'utilisation et la création d'instruments encore jamais entendus dans la musique classique occidentale. Et c'est à ne pas confondre avec les recherches sonores des techniques étendues, à savoir le fait de chercher de nouvelles manières de produire des sons à partir d'un instrument déjà existant. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille l'épisode de Musicoscope « Techniques étendues et modes de jeu contemporains » qui lui est dédié. Mais commençons tout de suite notre découverte de ces nouveaux instruments de la musique contemporaine en parlant d'ouverture internationale. Nous pourrons ensuite constater l'irruption de l'électronique dans les compositions, puis terminer sur le lien étroit que finissent par entretenir musique et objets du quotidien. Avant toute chose, pour voir ce qui nous attend aujourd'hui, un extrait musical avec un instrument qui nous vient d'ailleurs. Un des grands axes de réflexion de la musique contemporaine est la recherche de nouveaux sons, celle de l'inouï. Et l'ouverture progressive sur le monde qui s'accélère au XXe siècle permet par exemple la découverte d'instruments issus d'autres cultures. Ce ne sont pas à proprement parler des instruments inventés ou conceptualisés durant la période contemporaine, mais leur utilisation par des compositeurs occidentaux est une nouveauté. Ici, c'est un sheng que vous venez d'entendre, accompagné par un orchestre symphonique dans Verhandlungen, un concerto pour sheng d'Ennio Schneider, composé en 2003. Le sheng est un instrument traditionnel chinois qu'on appelle aussi orgue à bouche, car c'est un instrument dans lequel on souffle. On voit ainsi déjà que les frontières entre musique traditionnelle et musique classique deviennent de plus en plus poreuses et permettent une hybridation des genres musicaux et des mélanges de timbres inédits. Mais bien que cette ouverture culturelle ouvre des portes musicales d'une grande richesse, la facture instrumentale continue elle aussi d'évoluer en soi, avec la création totale de nouveaux instruments. Au XXe siècle, on découvre par exemple enfin le potentiel d'instruments qui ont toujours été là, sans jamais être mis sur le devant de la scène, ce sont les percussions. Vous venez d'entendre un extrait d'Erewhon de Hugues Dufour. Dans cette pièce, ce ne sont pas moins de 150 instruments à percussion qui sont disposés sur la scène pour seulement 6 exécutants. On y trouve d'ailleurs entre autres des percussions traditionnelles issues de tous les continents, mais aussi des instruments inédits dans la facture instrumentale. Les percussions font ainsi le lien entre la musique d'hier, avec par exemple les timbales, toujours utilisées dans l'orchestre, la musique traditionnelle, avec des instruments venus du monde entier, mais aussi et surtout la musique contemporaine, avec la création d'instruments comme le bien-aimé vibraphone, ici dans Encantada de Nathan Daughtry. Si vous cherchez un point de repère simple pour vous situer dans l'histoire de la musique classique, sachez que, particulièrement dans les œuvres symphoniques, plus vous entendez de percussions, plus il y a de chances que l'œuvre se rapproche du milieu du XXe siècle. L'utilisation des percussions traduit aussi un nouveau point d'intérêt pour les compositeurs. Après avoir arpenté pendant des siècles les sentiers de la mélodie et de l'harmonie, la musique contemporaine, elle va entre autres mettre en lumière l'importance du rythme, qui devient central dans un certain nombre d'œuvres. D'un autre côté, si on parle d'instruments inédits dans la création contemporaine, il est impossible de passer à côté d'un de ses courants phares, celui de la musique électronique. On date souvent le passage entre la musique moderne du début XXe et la musique contemporaine en 1945, au moment de la découverte des bandes magnétiques par le grand public. C'est alors une véritable ruée vers l'électronique qui s'opère et un terrain propice à l'expérimentation. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait d'un instrument qu'on nomme thérémine et dont le son est émis de manière très particulière. Le thérémine est un instrument étonnant qui se compose d'un boîtier électronique et de deux antennes et dont le musicien produit et module les sons en déplaçant ses mains dans l'espace du champ magnétique. Il joue ainsi sans même toucher l'instrument. Il faudrait des heures pour vous parler de toutes les trouvailles des recherches en musique électronique, mais je vous conseille de vous intéresser entre autres aux ondes Martenot et à un de ses dérivés, le réactable, qui explore tous deux les possibilités de production, d'association et de diffusion du son grâce à l'utilisation de l'électronique. Au fil de la découverte de l'électronique et de son utilisation, les compositeurs commencent d'ailleurs à la considérer comme un instrument en soi. On intègre alors des bandes sonores à de la musique composée pour des instruments classiques. C'est le cas, par exemple, dans Bilude de Pierre Schaeffer pour piano et bande son, qui revisite un classique de Jean-Sébastien Bach. Thank you. Les musiciens et la technologie interagissent donc de plus en plus dans des œuvres avec des bandes-sons intégralement prévues à l'avance, comme dans Pimpin, de Jacob TV, où le saxophone et les voix enregistrées semblent se mêler au point de devenir un seul et même instrument. L'électronique prend maintenant tellement de place que les ordinateurs sont aujourd'hui utilisés comme des instruments et que certains compositeurs finissent par écrire des morceaux sans besoin d'instrumentistes. Ce qui est d'ailleurs le cas d'un grand nombre de productions de musiques actuelles, intégralement composées avec des sons de synthèse. Si on voulait extrapoler sur cette question, elle pourrait nous faire faire le lien avec les questions de l'intelligence artificielle et, pour notre sujet précis, de savoir si les machines peuvent ou non complètement remplacer les musiciens. À vrai dire, certains compositeurs ont trouvé leur réponse à cette question, et pour certains d'entre eux, cette réponse, c'est oui. Dans cet extrait du Mystère Andromède de Guilmele pour le film éponyme, la composition est basée intégralement sur des sons électroniques, à quelques rares exceptions. L'idée n'est tout de même pas de noircir le tableau, car la majorité des œuvres écrites nécessitent au moins l'intervention de musiciens pour l'enregistrement des sons avant modification, faute de les jouer eux-mêmes face au public, ou de techniciens pour manipuler les machines, ces techniciens qui deviennent alors part des musiciens.
Musicoscope, sur Radio Campus Angers, 103 FM.
Dans la recherche de nouveaux sons, qu'ils soient tirés d'instruments créés pour l'occasion ou d'enregistrements électroniques, un autre courant émerge également à mesure que la musique contemporaine s'installe au XXe siècle. Ce courant, c'est le bruitisme, ou l'utilisation de bruit comme objets musicaux. Les compositeurs vont alors se pencher sur les sons de tous les jours, la musique de notre quotidien, et sur cette idée qui nous vient d'Hector Berlioz que tout corps sonore mis en mouvement par le compositeur est un instrument de musique. Pour les compositeurs bruitistes, n'importe quel son peut alors devenir matière à musique. On peut d'ailleurs facilement lier ces questions à celles de la notion du beau dans l'art. Avec par exemple la polémique autour de la Pissotière de Marcel Duchamp, qui pose la question de ce qu'on peut ou non considérer comme de l'art, ainsi que de tous les esclandres autour de la légitimité de l'art pictural contemporain. Je vous propose donc d'écouter un petit bestiaire de bruit utilisé par des compositeurs. Et d'abord, Pierre Schaeffer avec son étude au chemin de fer tiré de ses 5 études de bruit.
Thank you.
Vous n'aurez pas eu de mal à reconnaître dans cette œuvre les sons propres au chemin de fer, enregistrés en direct sur le terrain, puis mixés par Schaeffer. Dans la même veine, Edgar Varèse, lui, utilise des sirènes de chantier, symbole d'un monde en pleine industrialisation, dans sa pièce « Ionisation ». Remarquerez également que Varèse compose Ionisation avec de multiples percussions, qui sont les instruments qu'on peut le plus facilement rapprocher de la notion de bruit, tant les effets sonores possibles sont parfois indépendants de toute notion de hauteur et donc de mélodie. Tous ces bruits ont également été étudiés par Luigi Russolo, qui les a répertoriés dans son ouvrage L'art des bruits en 1913. Puis à créer des instruments pour les retranscrire, sous les appellations de glouglouteurs, hurleurs et autres crépiteurs. Écoutons maintenant une pièce fameuse de Ligeti, qui utilise comme matériau principal un accessoire pensé pour la musique, mais cette fois comme instrument en soi. Ce sont bien ici des métronomes que vous entendez jouer le poème symphonique pour 100 métronomes de Gheorghi Ligeti. Chaque métronome est réglé à une vitesse différente, ce qui crée des intrications rythmiques complexes et changeantes, qu'on a d'ailleurs du mal à distinguer au départ tant les métronomes sont nombreux et avec le même timbre. Dans le même genre d'objet du quotidien, George Crumb, que nous n'avions pas encore cité dans cette émission, choisit, lui, d'introduire le son irréel des verres en cristal dans sa pièce Black Angels pour accompagner un solo de violoncelle. Le son que vous entendez est produit par le frottement d'archers contre des verres en cristal. D'aucuns diraient que l'utilisation musicale des verres n'est pas apparue avec la musique contemporaine, mais il m'aurait été douloureux de ne pas vous faire entendre cette merveille que vous pourriez tenter de reproduire en faisant votre vaisselle. Certains compositeurs choisissent même d'utiliser ces bruits qui deviennent un instrument comme seul matériau musical. C'est le cas des variations pour une porte et un soupir de Pierre Henry, dont le nom vous signifie clairement l'instrumentarium. Mmh. Pour faire écho à notre triptyque d'émissions sur la danse, on peut d'ailleurs noter que Maurice Béjart a proposé une version chorégraphiée de cette pièce en 1965. Sur le chemin de ces objets qu'on considère maintenant comme des instruments, tant que le compositeur en a décidé ainsi, on peut également noter un glissement dans la démarche de composition, avec une part de plus en plus importante laissée à la notion d'imprévu, et surtout de hasard. C'est ainsi que des objets, non contents d'être des instruments, deviennent la base de la démarche compositionnelle, comme dans Music of Changes de John Cage, où il utilise un dérivé du tarot, le Yi Qing, pour choisir ses motifs, rythmes et nuances dans la pièce qu'il est en train d'écrire, ou encore la Calder Piece de Earl Brown, où les mouvements d'un mobile de Calder sur la scène imposent leur déplacement aux musiciens. Pour clôturer notre émission, un dernier instrument inédit vaut la peine d'être cité. Et cet instrument part du silence. La notion de silence n'est pas nouvelle dans la musique, mais John Cage en a fait une pièce entière, la trop souvent dépréciée 4 minutes 33, qui met en scène un musicien et son instrument qui restent silencieux pendant un temps donné. En ressort, une pièce dont l'exécutant principal n'est plus le musicien sur scène, mais bien le public et les bruits que produisent leurs mouvements et chuchotements interloqués à mesure que le questionnement s'installe. C'est une pièce qui n'est jamais deux fois la même, avec pour seuls instruments le silence, certes, mais surtout le public. Voilà qui clôture notre étude de ces instruments encore inconnus, entre musique traditionnelle, électronique et études de bruit. Et j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces curiosités musicales et tout l'attrait qu'ont les compositeurs contemporains pour ce qui réussira à surprendre le public. L'idée, c'est d'ouvrir grand les oreilles pour y mettre tous les sons qu'elles voudront bien entendre, tous ces sons que, si seulement on les accepte en tant que tels, on peut appeler musique. Car il n'y a pas ici de beau ou de laid, simplement un instrumentarium qui grandit et de nouveaux moyens d'être surpris. Nous arrivons maintenant au terme de notre émission du jour et je vous remercie de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Vous pouvez la retrouver ainsi que les précédentes sur le site de Radio Campus Angers, à l'onglet Musicoscope. Vous y trouverez également un espace dédié aux commentaires si vous souhaitez en laisser un, ainsi que toutes les références citées dans l'émission. Pour la conception de cet épisode, je me suis appuyée sur le très bel article « La haine de la musique contemporaine, résistance à la beauté » par Glitch pour l'influx, ainsi que sur les ressources du site de la Maison de la musique contemporaine, l'excellente chaîne YouTube de France Musique et sur la classique « Histoire de la musique pour les nuls » par Jean-Clément Jollet et Olivier Carillo. Merci à Étienne pour son aide à la technique et à Nicolas pour ses conseils musicaux. Nous nous retrouvons quant à nous le lundi 15 janvier pour, cette fois, c'est promis, notre émission sur la musique contemporaine en plein air. D'ici là, je vous souhaite un excellent début d'année et nous nous quittons avec une pièce sympathique, un concerto avec pour soliste une machine à écrire. Voici The Typewriter Song par Leroy Anderson. Bonne journée et bonne écoute. Thank you.
Vous écoutiez Musicoscope. Retrouvez-nous en direct les 1er et 3e lundis du mois à 16h30 sur Radio Campus Angers 103 FM ou en replay sur votre plateforme de podcast préférée.